franceinter.fr.
Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Professeur au Collège de France, spécialiste du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'Italie. Vous venez de diriger une volumineuse histoire mondiale de la France. Notre pays raconté en 146 dates par 122 auteurs. Genre, je disais, c'est volumineux, c'est un pavé de 800 pages qui paraît au seuil, mais c'est très accessible parce que les articles sont brefs et c'est pas du tout d'une facture universitaire. Beaucoup de jeunes historiens, à qui vous avez demandé quoi? Quelle était la feuille de route?
La feuille de route était simple, c'était de raconter, et c'est déjà une prise de position pour des universitaires. Vous commencez à vous moquer, je vois bien.
Non.
Parce que, mais si,
n'est pas de facture universitaire.
Ben, parce que justement, au fond, nous sommes habitués, nous, les universitaires, à être des professionnels de la déconstruction. Mmh. Dès qu'on nous raconte une histoire, on croit de notre devoir de dire c'était plus compliqué que ça. Mmh. Et on croit de notre devoir de démonter, en particulier lorsqu'il s'agit de l'histoire de France et du grand légendaire national. Et au fond, je voyais là comme une sorte de partage des rôles déloyal entre ceux qui s'abandonnaient sans vergogne, les publicistes, au charme de la narration, et ceux qui s'en privaient, et qui, de fait, se privaient aussi d'une écoute. Alors, nous nous sommes dit, parce que je ne suis pas seul dans cette grande entreprise, il y a un éditeur, une éditrice, Séverine Nickel, et puis j'ai des coordinateurs, il y a Florian Mazel, Pierre Singaravelou, Yann Potin, Nicolas Delalande. Nous nous sommes dit, on va réconcilier la pensée critique, qui est notre métier, avec l'art de la narration. On va demander à des historiens de faire des intrigues, des petites intrigues resserrées comme des drames à partir de ce qui nous est le plus familier, au fond, mais pour le subvertir un peu, c'est-à-dire l'histoire par date, la chronologie. Du plus loin, la grotte Chauvet, au plus près, 2015.
Alors, le critique, on va le voir dans un instant avec quelques exemples, mais pourquoi histoire mondiale de la France? Pourquoi mondiale?
Comment pourrait-elle ne pas l'être aujourd'hui? Ce n'est pas une prise de position bien aventureuse, c'est simplement le fait que notre condition historique aujourd'hui, elle est transformée par le fait, par la certitude que nous sommes dans le monde. Ce n'est pas une histoire de la France mondiale, c'est pas nécessairement l'histoire des conquêtes ou l'histoire des remords, non. C'est simplement, tout simplement, le fait que la France n'existerait pas s'il n'y avait pas le monde, si elle ne se définissait pas avec un monde, si elle ne s'expliquait pas avec le monde. Et c'est d'ailleurs pour cela que, au fond, ce qui a mis l'étincelle, au fond, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une phrase de Michelet que nous avons du jeune Michelet, qui écrit une histoire universelle. Avant d'écrire une histoire de France, il a écrit une histoire universelle en 1831, et il y dit « Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. »
Donc, expliquer la France par le monde, Patrick Boucheron, ça veut dire, on peut dire que c'est le contraire d'un récit identitaire exaltant, célébrant, vous voyez ce que je veux dire, une grandeur perdue.
Je vois ce que vous voulez dire, oui. Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on lui ôte de la grandeur.
Ouais.
C'est ça qui est tout ça. Il m'a toujours semblé mystérieux que l'on puisse croire qu'on diminuait un pays si on l'intégrait au monde. Bon, en réalité, la France, comme n'importe quel pays, ne s'explique au sens banal du terme, qu'avec ce qui l'entoure et ce avec quoi elle dialogue. Mais la France n'est pas non plus n'importe quel pays. Et elle a eu à certains moments de son histoire l'ambition ou l'illusion de contenir le monde tout entier. C'est quelque chose comme son rêve universaliste. Et c'est cela, évidemment, que Michelet avait en tête, et c'est ce défi, le défi de l'universel, au fond, que nous tentons de relever.
Alors, on va reparler tout à l'heure, je pense, des débats identitaires ou qui ont trait à l'identité de la France. Regard critique, par exemple, sur l'un des événements fondateurs de l'histoire de France, Alésia. Défaite glorieuse, glorifiée notamment par Napoléon III, mais défaite improbable, explique Yann Potin qui signe l'article. En fait, Alésia est moins un événement d'il y a 2000 ans qu'un mythe du 19e siècle.
Ben oui, parce que c'est quand même étrange comme idée, et pourtant elle est tenace, dans ce qu'on appelle le roman national, de faire d'une défaite l'an 1 de notre histoire. Comme si, au fond, nous nous définissions par cet art français de perdre les guerres. En réalité, d'ailleurs, Vercingétorix, qui est à peine un nom commun pendant très longtemps, et pour Michelet encore, c'est juste, ça veut juste dire chef gaulois. On en fait un personnage assez tard au XIXe siècle, à partir d'un récit un peu trafiqué quand même de César, et à partir surtout du moment, Napoléon III, où on a besoin après Sedan, évidemment, de considérer que la défaite est civilisatrice.
Mais c'est un récit qui est très suspect aux yeux des spécialistes.
Hein. Oui, c'est un récit qui est très suspect.
Parce qu'il y a un déséquilibre des forces en présence sur le terrain, en faveur des Gaulois, contre les Romains.
Et puis parce que surtout, les Gaulois sont des Romains comme les autres.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est dans un moment, de toute façon, où, et ça Maurice Sartre le montre lorsqu'il parle de l'édit de Caracalla, pourquoi on dit gallo-romain, on ne dit pas syro-romain, on ne dit pas hispano-romain. De toute façon, ce monde est intégré dans, depuis bien longtemps dans une romanisation de longue durée et de faible pente. Mais évidemment, les Français ont toujours besoin d'afficher une irréductible singularité dont Vercingétorix est le vainqueur, enfin plus exactement, et effectivement le loser magnifique.
En résumé, on n'est pas certain que Vercingétorix ait réellement combattu César.
Voilà. Mais en même temps, on n'a pas envie non plus d'être sans cesse les rabat-joies de nos souvenirs d'enfance et de se contenter de dire on sait pas trop. On sait pas trop la date de Clovis, la date du baptême de Clovis, 496 est purement fictif, c'est pas pour ça qu'on va pas parler de Clovis.
Alors, autre exemple critique, et puis surtout d'un mythe très important, 1539, vous signez l'article sur 1539, l'Empire du Français, Patrick Boucheron, article qui commence ainsi, Villers-Cotterêts, N, 10 000 habitants, son château Renaissance, sa municipalité Front National. Il y a là un télescopage de symboles à cause de la place tenue dans notre histoire ou dans notre mythologie par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, expliquez-nous.
Oui, parce que Villers-Cotterêts, c'est à la fois la ville du général Dumas, et on se souvient que la mairie Front National avait d'emblée refusé de participer aux cérémonies pour l'abolition de l'esclavage, et c'est aussi effectivement le lieu de villégiature de François Ier, où il a signé l'édit de Villers-Cotterêts, qui, contrairement à la relecture du XIXe siècle, laïque et jacobin de Ferdinand Buisson, ne définit pas le français comme langue officielle du roi contre les autres parlés, en particulier contre la langue d'oc, mais bannit le latin, en tant que le latin était la langue de culture et d'administration, mais que c'était aussi une langue d'initié. Et donc, il y a une volonté de transparence, une volonté de communication politique qui construit effectivement donc une langue du pouvoir. Sauf que, évidemment, aujourd'hui encore, par exemple, Jean-Pierre Chevènement utilise l'édit de Villers-Cotterêts pour refuser l'idée que la France... qui a ratifié, c'est pourtant dans le traité de Maastricht, la France ne ratifie toujours pas les dispositions européennes sur les langues régionales. Et on dit, je rappelle quand même que l'édit de Villers-Cotterêts est la plus ancienne disposition réglementaire encore
en vigueur
dans le droit français. Oui. On dit qu'on ne peut pas le faire à cause de l'édit de Villers-Cotterêts, ce qui est un mythe total, évidemment, puisque Villers-Cotterêts visait le latin et pas les langues régionales.
Ouais, donc c'est un article très intéressant que vous signez. Alors il y a d'autres articles contemporains. Moi, j'ai vraiment appris des choses, notamment cette date de 1962, le crépuscule de l'Algérie française à Jérusalem, où l'on explique que la France revendique jusqu'en 62, au nom de la souveraineté qu'elle exerce sur l'Algérie, évidemment, qui s'arrête en 62, au pied du mur des Lamentations, l'administration du quartier maghrébin à Jérusalem. J'ai appris cette... page d'histoire.
Oui, c'est Vincent Lemire qui la signe et qui nous rappelle que, évidemment, pour faire une histoire mondiale de la France, il faut définir ce qu'était la France à un moment donné et ce qu'était le monde à un moment donné. Et à ce moment-là, eh bien, la France est traversée par la Méditerranée. Voilà. Dès lors que l'Algérie est française, eh bien, le rapport entre la France et le monde s'en trouve bouleversé. Et au fond, c'est cela que nous tentons de viser. chercher à chaque moment la manière dont la France et le monde se définissent mutuellement.
Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France apparaît au seuil. On va y revenir avec les appels des auditeurs tout à l'heure et puis d'autres exemples qu'on aura plaisir à citer de cette somme. Patrick Boucheron avec vous, 8h31.